L'entretien, qui est à la base de cette émission, a été réalisé dans le cadre d'un séminaire de l'Université de Ratisbonne. Il a eu lieu le 16 avril 2019, dans l'appartement de Madame Spingarn à Paris. Le point de départ de notre conversation a été le livre « J'ai sauté du train » qu'Odette Spingarn a publié aux éditions Le Manuscrit à Bruxelles en 2012. Dans ce livre, Odette Spingarn parle notamment de sa déportation, de sa détention dans le système concentrationnaire allemand, d'abord à Auschwitz, de son évasion, de ses parents et de ses témoignages. Comme le cadre thématique de notre séminaire était celui du camp de concentration de Flossenbürg et de ses camps associés, l'entretien aborde surtout le sujet de la détention à Schopau, où elle était forcée à travailler dans une usine de l'Auto-Union. Le 31 mars 1944, Odette Spingarn et ses parents ont été arrêtés par des soldats de la division Bremer à Brive. C'étaient des Français juifs. La famille a été séparée le lendemain. Odette Spingarn ne reverrait plus jamais son père. À ce moment-là, elle avait 19 ans. En passant par le camp de Drancy, Odette Spingarn et sa mère ont été déportées à Auschwitz-Birkenau, le camp où mourait sa mère peu après. En octobre 1944, Odette Spingarn faisait partie d'un convoi à destination de Schopau, à environ 15 km de la ville de Chemnitz en Saxe.
Nous n'avions aucune idée de la destination du train. Mais nous avions quitté Auschwitz et on pensait que rien ne pouvait être mieux pour nous que de quitter Auschwitz. Ça, Auschwitz, c'était quand même le pire endroit où se trouver. Et partir d'Auschwitz, quelle que soit notre destination, on était contente de partir d'Auschwitz. Voilà.
Quitter Auschwitz vers une destination inconnue. Lorsque les femmes sont arrivées à Schopau, il faisait nuit. Les rues du bourg étaient désertes. Le voyage avait duré 2 journées et les femmes étaient fatiguées. La traversée du bourg, un lieu de vie avec des rues, des magasins, leur faisait un effet particulier. Après Auschwitz, elles n'avaient plus l'habitude de ces signes de civilisation. 5 par 5, on les a emmenées à la mairie, où les femmes allaient pouvoir dormir.
Et à la mairie, on s'est rendu compte qu'on ne nous attendait pas. Ils étaient surpris un peu de nous voir. C'était probablement des femmes bénévoles qui étaient là et qui ont eu la gentillesse de nous apporter une soupe ou quelque chose à manger.
L'arrivée des détenus d'Auschwitz n'avait pas été prévue. Tout était provisoire et les femmes n'avaient aucune idée de ce que l'on attendrait d'elles. On finirait par les forcer à travailler dans une usine de l'Auto-Union. Comme rien n'avait été préparé, pendant un premier temps, les femmes devaient se rendre au travail à pied tous les matins. Finalement, des lits superposés ont été installés au 2e étage de l'usine. À partir de ce moment-là, les femmes ne sortaient plus de l'usine. Elles travaillaient au 1er étage et le soir, elles montaient par un petit escalier au 2e étage pour dormir.
Donc on ne sortait jamais après de l'usine. Au début, on est sorti parce que le 2e étage avec les lits superposés n'était pas prêt. Alors on nous faisait marcher à un certain endroit jusqu'à l'usine. Mais après, ça n'a plus été nécessaire. Donc on est resté dans l'usine et on n'en est jamais sorti. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en sortir puisque on était où ? À la salle des machines ou à l'étage au-dessus, à la salle des lits superposés, il y avait un petit escalier.
Les journées de travail s'enchaînaient l'une après l'autre. On les réveillait tôt. Le matin, il y avait déjà un court tel-appel, un peu de thé. Ensuite, il fallait descendre par le petit escalier pour travailler.
On descendait par le petit escalier, on allait devant les machines, alors nous avions chacune était affecté à une machine avec un Allemand qui était le Vorarbeiter qui nous apprenaient comment il fallait s'en servir. Mais c'était des hommes âgés, qui étaient trop âgés pour avoir été mobilisés, donc ils étaient là pour faire ce travail-là, et en même temps, c'était des hommes très cruels.
Les Vorarbeiter savaient que ces ouvrières venaient d'Auschwitz. Ils les méprisaient. C'était des ouvrières sans statut et sans protection.
Pour eux, on n'était rien du tout, quoi. Alors ils n'hésitaient pas à être très désagréables.
Le travail était dur et les femmes travaillaient sans arrêt du matin jusqu'au soir. Les journées se confondaient et donnaient lieu à un sentiment de fatigue constant. Un jour libre, s'il en avait un, il n'a laissé que peu de souvenirs, voire aucun. L'usine fabriquait des pièces détachées pour moteurs d'avion. Les femmes auraient bien voulu saboter ces pièces, ce qui était très dangereux, vu que les actes de sabotage étaient sévèrement punis. Parfois, elles y arrivaient. Les Vorarbeiter étaient toujours présents pour les surveiller et n'hésitaient pas à être très cruels envers elles. Le soir, après une longue journée de travail, debout, devant les machines, ils obligeaient les femmes à laver les machines avec de grands seaux très lourds. Ensuite, il y avait un court sel-appel, on leur distribuait leur nourriture, un bout de pain avec de la confiture. En plus de la fatigue et de la faim, les bombardements des Alliés faisaient peur aux femmes enfermées dans l'usine.
Alors, l'usine était effectivement visée et les femmes allemandes qui nous gardaient, elles aussi, elles étaient extrêmement désagréables et elles nous battaient souvent, elles étaient vraiment très dures. Alors elles ont eu peur, elles se sont enfuies, elles nous ont enfermées, elles sont parties dans la forêt. Et nous, évidemment, on n'avait pas envie de se laisser enfermer et risquer d'être blessés. Alors on a réussi, en s'y mettant toutes, on a enfoncé la porte pour nous réserver un petit endroit où on pouvait sortir. Alors on est sortis. Et on s'est aiguillé dans la forêt. Et puis après, il y a eu une fin d'alerte qui a sonné. Et nous sommes rentrées toutes à dans notre usine. Alors quand les Algériennes nous ont vu rentrer, elles étaient très inquiètes, horriblement inquiètes. Elles nous ont compté, recompté. Elles avaient peur que certaines d'entre nous se soient évadées. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, elles ont vu qu'on revenait normalement et qu'il n'y avait pas lieu de craindre une évasion. Et à partir de ce moment-là, elle nous a laissé, à chaque alerte, aller dans la forêt pour éviter d'être dans l'usine, qui était évidemment la cible des bombardements.
Si l'une des femmes avait disparu, cela aurait eu de graves conséquences pour toutes celles qui étaient encore. Elles avaient réussi à enfoncer la porte pour se sauver, au cas où une bombe aurait atteint l'usine. Pourquoi ne se sent-elle pas évadée?
Que faire dans cet endroit? Où aller? On n'avait aucune possibilité d'être aidée. On ne pouvait pas, ça n'avait aucun sens de s'évader de cette forêt parce qu'on ne savait pas où aller, on ne savait pas qui pourrait nous aider.
Même si on arrivait à sortir de l'usine, il fallait se poser la question de savoir où aller. Les détenues n'avaient qu'une idée très vague où elles se trouvaient en Allemagne, dans le sud, vers l'ancienne Tchécoslovaquie. Un savoir qu'elles obtenaient d'ailleurs par leurs camarades qui savaient parler allemand. Les détenus qui maîtrisaient l'allemand devenaient une aide très importante pour leurs camarades qui ne le maîtrisaient pas.
L'allemand, on peut dire qu'on l'apprenait sur le tas, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre les ordres. Alors, les filles qui savaient l'allemand traduisaient pour les autres, pour que tout le monde soit au courant des ordres, mais ça a été assez rapide. Alors on a fini par assimiler ce vocabulaire qui était à peu près toujours le même et on savait les mots les plus importants qu'il fallait savoir pour comprendre les ordres qui étaient donnés en allemand.
En apprenant les ordres les plus importants en allemand, la communication avec les officerines allemandes était assurée dans la mesure où cela était nécessaire. Les détenues elles-mêmes étaient de nationalités diverses. Pour assurer la survie, devenir partie d'un groupe de détenus qui s'entraidaient pouvait être quelque chose d'essentiel. Odette Spingarn formait, elle aussi, partie d'un groupe qui allait faire un plan pour s'évader à la fin.
Eh bien, c'est par affinité de langue, pas du tout par affinité de patrie. Toutes les francophones se retrouvaient, étaient contentes de pouvoir parler ensemble, échanger. Tout ça, c'était toujours pour éviter de penser, pour se distraire un peu de la situation épouvantable dans laquelle on se trouvait. Alors, ça nous aidait beaucoup.
Malgré les difficultés de langue et de l'isolement du monde extérieur, l'une des détenues qui faisait partie du groupe d'amis d'Odette Spingarn se communiquait avec une Aufseherin qui était moins cruelle envers elle. Ainsi, elles obtenaient des informations de nature très rudimentaire sur leur localisation en Allemagne et sur la situation des Allemands dans la guerre.
Par elle, on savait quand même que la situation n'était pas tellement bonne pour les Allemands et que les Alliés arrivaient. On a su quand même que dans le sud où nous nous trouvions, on n'était pas tellement loin de Chemnitz et que Chemnitz était l'endroit où se trouvaient déjà les Alliés. Par conséquent, c'était déjà une indication. Mais pas grand-chose, mais enfin, on a appris ça. Même avec beaucoup d'espoir.
Il s'agissait là d'informations très importantes. Le 13 avril 1945, les détenus de l'usine à Schopau ont été évacués vers le sud.
Quand on nous a évacués de l'usine, nous a emmenés à la gare pour monter dans un train, c'était extrêmement inquiétant. Ça voulait dire que l'usine allait peut-être être bientôt reprise par les Alliés et que les Allemands étaient en train de battre en retraite. Et que s'ils nous emmenaient, nous les travailleuses forcées, c'est qu'ils ne voulaient pas que les Alliés retrouvent notre trace. Alors, c'était extrêmement inquiétant. Et c'était d'autant plus inquiétant qu'on était entassés dans les wagons, alors que d'habitude, les avions sont faits pour 40 hommes. On était en général 60, mais là, on était 120. Alors, 120, ça voulait dire qu'il n'y avait même pas la place de s'asseoir. On pouvait s'accroupir au maximum. Donc, tout ça était suffisant pour que l'on se dise que si on nous emmenait dans des conditions pareilles, c'était évidemment pour nous exterminer. Alors, est-ce que c'était pour aller retourner dans un camp où il y avait des chambres à gaz? Est-ce que c'était pour nous fusiller? Est-ce que c'était... Enfin, on ne savait pas de quelle mesure, de quelle manière on allait nous exterminer, mais on était sûrs qu'on allait nous exterminer. Alors, entre francophones, on s'est vraiment, on a réfléchi, on s'est dit, il faut à tout prix arriver à s'évader, c'est la seule possibilité. Sinon, notre sort est certain.
Effectivement, les francophones ont réussi à trouver une solution pour s'évader. Certaines d'entre elles se trouvaient proches d'une fenêtre qui n'était pas fermée par les barreaux habituels.
Ben, ça a été une chance inouïe. C'est que deux choses d'ailleurs. La première, c'est que on nous a fait monter dans le dernier wagon du train. Il y avait plusieurs wagons. Entre les wagons, il y avait des plateformes avec chaque fois un soldat sur cette plateforme, quelquefois même avec un chien. Alors nous étions donc dans le dernier wagon, déjà une chance. Et puis, les petites fenêtres qui sont en l'air, dans des wagons à bestiaux et par lesquelles on pouvait avoir un petit peu d'air en s'en approchant, eh bien, une des deux fenêtres, au lieu d'être fermée par des barreaux, elle était fermée par des planches clouées. Sans doute que les barreaux avaient été cassés, je ne sais pas. En tout cas, c'était des planches, deux planches en X clouées. Et avec ces deux chances, notre idée d'évasion devenait possible.
Ces deux planches en X rendaient possible un plan d'évasion. En les déclouant et en s'entraidant à arriver en haut, il devenait possible de sauter du train.
Alors, évidemment, il fallait s'approcher déjà de cette fenêtre, il fallait arriver à déclouer les morceaux de bois. Et puis ensuite, il fallait grimper parce qu'elles sont hautes. Il fallait se faire la courte échelle, chacune à son tour. Et pour moi qui étais dans le fond du wagon, la grosse difficulté, ça a été de traverser la largeur du wagon en bousculant les malheureuses qui étaient accroupies puisqu'il n'y avait pas la place de s'asseoir et qui se demandaient pourquoi j'allais en plus les déranger, les embêter.
Odette Spangarn était la 7e à sauter et s'est ainsi rendue libre. Si les 14 francophones qui formaient son groupe d'amis ont réussi à le faire, elle ne le sait pas. Elle ne les a pas toutes retrouvées après la guerre. Pour sauter, il fallait regarder dans la direction opposée à celle où le train roulait, et il fallait donner un bon coup de pied pour se détacher du wagon, sans savoir sur quelle sorte de terrain on tomberait, toujours en espérant que personne ne l'ait vu.
Comme ça, enfin, je suis tombée sur des cailloux et la première chose que j'ai fait, c'est de bien m'examiner pour voir si je m'étais rien cassé. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que je m'étais rien cassé. Alors à ce moment-là, j'ai eu la peur de ma vie parce que le train a ralenti et s'est arrêté. Alors ça s'est foutu, on m'a vu, il y a des soldats sur la plateforme qui ont pu me voir sauter et qui ont fait arrêter le train. Et ben non, c'était pas ça. Mais enfin, moi, je me suis planquée par terre. Je me suis aplatie par terre en me faisant, enfin, je sais pas grosse, mais je me suis fait aussi mince que je pouvais pour être complètement aplatie par terre. Et j'ai pas bougé tant que le train n'est pas parti et je voyais la petite lumière rouge du train. Et j'ai vu la lumière rouge partir au loin. Et c'est seulement quand je ne l'ai plus aperçue que j'ai osé me mettre debout. En espérant que j'étais vraiment libre. Alors ça, c'était effectivement merveilleux. De se sentir libre, même si j'avais aucune idée, il faisait nuit, je savais pas où j'étais, je savais pas quoi faire, mais c'était merveilleux. C'était merveilleux d'être libre. Je me disais, même si on me reprend maintenant, si on me tue, bon, ben, j'aurais vécu un moment de liberté que je me serais attribué à moi-même. Ça, c'est formidable.
Être libre après le temps d'angoisse de la détention. Pour Odette Spangarn, c'était quelque chose de totalement inespéré, puisqu'il y avait tellement de mesures qui le rendaient presque impossible de s'échapper. Et pourtant, après avoir sauté, elle était libre, mais pour combien de temps?
Oh, je ne m'attendais pas tellement à réussir 100%. Hein. Je me disais, je vais probablement arrêter de nouveau. Je pensais pas que je réussirais vraiment. Mais il faut toujours essayer.
Il faisait nuit et elle ne savait pas où elle se trouvait. Il fallait essayer d'arriver à Chopau et de là à Chemnitz, qui était déjà sous le contrôle des Alliés. Le chemin était dangereux. Il fallait craindre à chaque instant que l'on puisse la reconnaître comme détenue échappée et l'arrêter. Mais finalement, elle est arrivée à Chopau. Un prisonnier de guerre français, M. Marquand, a aidé à la cacher chez une femme allemande, Ellie Fuhlmann, jusqu'à ce que la guerre soit finie. C'était 3 semaines de faim et de peur d'être découverte. Tout pouvait encore lui arriver. Il fallait attendre la fin de la guerre, qui semblait imminente.
Vous savez, chez Mme Fuhlmann, tous les soirs, M. Marquand venait après le travail, enfin très tard, tard le soir. Et avec elle et avec lui, je passais la soirée, on écoutait la BBC, on était parfaitement au courant de l'avance des Alliés, et on voyait que l'Allemagne était en train de perdre la guerre, et on voyait que à courte échéance, on allait être libéré, c'était évident. Alors on écoutait les nouvelles tous les jours, on attendait que ça.
Finalement, le 8 mai est arrivé. C'était la première fois depuis son arrestation qu'Odette Spangarn a pu sortir dans la rue sans avoir peur d'être arrêtée. C'était la fin de la peur d'être découverte et dénoncée. Mais c'était également le moment de penser à comment retourner. Comme elle n'était ni prisonnière de guerre, ni libérée des camps par les Alliés, ce retour était difficile. Il fallait traverser l'Allemagne bouleversée par la guerre, dans un état d'incertitude extrême. Ce n'est qu'après beaucoup de difficultés qu'Odette Spangarn a été rapatriée. Le 1er juin, elle est arrivée à Paris. Elle a retrouvé sa sœur, son beau-frère avec leurs enfants, ainsi que son oncle Germain. Mais elle est retournée sans ses parents. Ils n'avaient pas survécu. Son père avait été fusillé le lendemain de leur arrestation, tandis qu'Odette Spangarn et sa mère ont été transférés au camp de Drancy.
Je savais, quand j'ai été transférée à Drancy et qu'il n'était pas à Drancy, je savais qu'il avait été fusillé, j'en étais tout à fait certaine, parce que il y avait tellement de personnes qui ont été fusillées par cette division Brémère qui envahissait le Périgord. J'avais entendu tellement de récits de gens qui ont été massacrés, que je n'avais aucune illusion. Si on le retrouve, ce serait une chance. Et quand j'ai vu qu'il n'était pas à Drancy, alors là, ça a été pour moi une certitude. Ce qui fait que j'en ai eu la confirmation quand je suis rentrée, mais je ne m'a rien appris, je le savais.
Lorsqu'elles sont arrivées à Drancy, Odette Spangarn était seule avec sa mère. Le 13 avril 1944, les deux femmes ont été déportées à Auschwitz-Birkenau. Le 24 mai, la mère d'Odette Spangarn y est décédée au Revier. Elle était tombée gravement malade et est morte sous d'inimaginables peines. Elle avait été si faible qu'on lui avait même volé un pyjama de laine que sa fille avait su lui procurer pour alléger sa souffrance.
D'ailleurs, de tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a le plus... c'est ça qui m'a traumatisé à vie. C'est le sort de ma mère, sa souffrance. Et il fallait que ma sœur le sache. Et ça, ça m'a fait tenir depuis le début jusqu'à la fin. Je ne pensais qu'à ça.
Elle a raconté à sa sœur ce qu'il fallait que celle-ci sache. Elles n'en ont plus jamais reparlé. Ce n'est qu'en 1993 qu'elle a rompu son silence dans le cadre d'un programme de l'université de Yale. Elle a enregistré une vidéocassette dans laquelle elle a raconté son histoire.
Eh bien, cette cassette, comme je l'ai écrit, a servi de vecteur pour toute la famille qui n'osait pas me poser de questions. Et donc, je ne répondais pas puisqu'on ne me posait pas de questions. Et que je n'avais pas spécialement envie de parler. Mais là, avec cette cassette, j'avais plus envie de parler, mais je n'avais plus besoin de parler. C'est en voyant la cassette qu'ils ont pu apprendre tout ce qui s'était passé.
En même temps, cette vidéocassette a été le moment déclencheur pour qu'Odette Spingarn puisse commencer à témoigner. Elle est retournée à Chopin en compagnie de sa fille pour témoigner en 2005. Lorsque les négationnistes ont apparu, elle regrettait d'avoir enlevé le tatouage sur son bras. Preuve que pendant une année, son nom avait été 78, 97, 60. La dernière génération des survivants est en train de disparaître. Peu de personnes ont la chance et l'honneur de parler avec une survivante, de l'écouter, d'essayer de comprendre. D'ici quelques années, leurs récits, leurs témoignages seront la seule preuve qui subsiste de leurs histoires. Ça sera à nous. Génération jeune qui a eu le privilège de naître et de grandir en paix, de préserver leur mémoire et de décider de manière responsable qui nous écoutons. Le témoignage, c'est la lutte contre l'oubli.
Cette vidéocassette, j'avais pu la faire longuement. Donc je savais que je pouvais maintenant commencer à témoigner à droite et à gauche. Donc j'ai témoigné chaque fois qu'on me l'a demandé. Que ça se sache et que ça ne s'oublie pas. C'est la seule, c'est la vraie motivation.